prochaine affaire. Parce que je le sais que le mandat, je le prendrai pas le mandat, là. Mais les infirmières refusent d'inclure comme priorité dans leur entente, qui avait été signée, le mot mobilité. Puis, si on n'a pas le temps, mais s'il y a du monde qui prenait le temps d'expliquer à la population qu'est-ce que ça veut dire pour une infirmière mobilité, tu sais, peut-être qu'à Québec, ça veut dire que t'es infirmière à l'Enfant Jésus ou dans un poste à l'Enfant Jésus depuis 15 ans, puis que là, en fin de semaine, tu vas aller remplacer au CHSLD. Porter des pellules, aider les gens qui auront fait des besoins dans... Comprenez-vous la différence?
Ouais.
Puis vous pensez que les infirmières vont accepter cette mobilité-là? Tu sais, au contraire, les infirmières veulent de la stabilité, encore plus que ce qu'il y en avait. Puis pas pour laisser à découvert des postes, mais avec l'égalité. Puis j'ai de la misère, moi aussi, à me faire une tête. Est-ce qu'une infirmière qui a 4 ans d'ancienneté versus une qui en a 24 ou, tiens, je vais exagérer moins, une qui en a 14, est-ce qu'ils doivent avoir accès exactement au même poste?
Ça dépend. Est-ce que tu veux être obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire parce qu'il manque de monde ou tu veux un jour arriver à ce que le temps supplémentaire obligatoire n'ait plus lieu d'être parce qu'il y a assez de monde dans le système.
Mais là,
pour ça, faut que tu leur donnes des conditions.
Oui, mais du monde, il y en a assez. Il n'y a personne qui va faire les fins de semaine, mettons, ou les nuits. OK? C'est ça, la réalité.
Ouais.
Puis, ou les jobs où c'est plutôt de changer des couches que d'autres choses.
Ouais.
Je crois que vous allez me dire de déproposer. Je sais très bien comment ça marche. Causez-vous pas la tête.
Mais là, on veut vous garder, mais du monde malade, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
C'est ça.
365 jours par année.
Oui, mais est-ce que la 4 ans d'ancienneté devrait d'office faire les nuits et les fins de semaine plus qu'une qui a 14 ans d'ancienneté? J'ai pas tant exagéré, j'ai ajouté 10 ans. T'sais, est-ce que...
Je te dirais sur papier oui, mais on connaît toi puis moi la réalité. Elle viendra pas la 4 ans.
La question est en 2024, c'est pas la même réponse qu'en 2010 peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça la réponse aussi.
Je te repose. À ce moment-là, on s'abaisse au niveau d'exigence de ces nouveaux employés-là qui veulent plus faire de soir, de fin de semaine. Qui c'est que j'ai vu en fin de semaine, donc, qui était fermé? Plus personne veut travailler la nuit. Qu'est-ce que j'ai vu, donc?
C'était un resto?
Non, c'était pas un resto, c'était d'autres choses. J'en venais pas. Plus personne. Ils veulent plus de faire ça. C'est fini. Ça veut dire que, tu sais, quasiment que, si on exagère un peu, j'aime ça exagérer des fois, si ça continue, ben là, si t'es malade cette nuit, tu meurs. Tu sais, on se lèvera pas pour toi cette nuit, là. Comprends? Tu sais, les ambulances, là, la nuit, il n'y en a plus. Ça ferme à 8 heures. Ça recommence à 8 heures le matin. Ouais, mais là, il a fait un infarctus, lui, à 11h15. Pompelé jusqu'à demain matin, parce que là, faisait un massage cardiaque jusqu'à demain matin, nous autres, on est fermés.
Alors, pour qu'il y ait du service partout, est-ce que la flexibilité n'a pas nécessairement besoin d'être là aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui?
La flexibilité, quand tu as 14 ans d'ancienneté, ou encore plus, tu vas te dire, hey, moi, là, je l'ai fait mes nuits puis mes fins de semaine. Puis là, tu vas m'en faire encore?
Stéphane?
Oui.
C'est pas pareil. C'est pas le même genre de job. Je vous l'accorde à 2000%. OK? Fait à peu près un peu plus de 25 ans que je fais de la radio. OK? Puis quand je suis revenu ici il y a 2 ans, pour garder ma place, avoir un petit peu de salaire, j'ai été obligé de faire des doubles.
Mm-hmm.
Que personne ne fait presque en radio, là.
Personne ne fait plus. Avant, tout le monde en faisait.
C'est ça. À 56 ans, j'ai accepté de faire des doubles parce que c'était ça.
La réalité.
C'était ça, la réalité.
C'était ça, les besoins,
oui. C'était ça. Moi, tu aurais pu aller vendre des chaussures chez Yellow.
J'aurais pu aller vendre des chaussures chez Yellow.
Ou des vieux DVD graffinés, là, comme
c'est
ça. Pour
mais
ça.
À un moment donné, je comprends la volonté. En fait, je vais te le dire, ce qui va arriver. Si ça continue. C'est, vous trouvez peut-être que il y a déjà beaucoup de gens d'ethnie variée qui sont dans les services de santé, là, vous allez avoir encore plus.
Mais c'est clair, c'est clair. Ça, c'est une augmentation phénoménale.
On n'a pas le choix, les...
On veut pas travailler.
On veut pas travailler.
Il y a personne d'aller ramasser des fraises.
C'est parfait. C'est pareil dans les McDo. Mais c'est pareil partout. Mais c'est correct, vous faites le choix de société de pas vouloir travailler la fin de semaine. En commençant, vous voulez des congés. Parfait. C'est quelqu'un d'autre qui va faire la job.
On est exactement au même endroit, ouais. Sauf que moi, je mets un bémol sur l'ancienneté.
Je comprends.
Quand t'as de l'ancienneté, c'est... Mais là, les syndicats négocient des conventions collectives,
ouais,
pour que tout le monde, que tu rentres en santé ou que tu sois là depuis 20 ans, tu fais des 20 semaines, tu te déplaces, puis tu te...
Mais est-ce que c'est un temps pour placer le système, puis après ça, ça va se rétablir?
T'sais, parce que la fille qui travaille à l'hôpital à Tufford, là, puis que là, elle, il faut qu'elle ait de la mobilité, puis là, elle est collée au CHSLD de Saint-Georges. Aïe! Ça va-tu?
C'est pas pareil, je comprends.
Ils vont les former comment? Moi, là, à travers la mobilité, là, j'essaie de comprendre quand ils vont déplacer du personnel, parce que ça va être des postes différents. Hein, ça sera pas dans... T'sais, si on est dans la marde, dans un CHSLD, par exemple, au niveau des infirmières, on est pas moins dans la marde dans l'autre à côté. Là.
Mais est-ce qu'on pourrait en avoir une genre d'affectation de dire, OK, j'accepte la mobilité, mais pas dans 8 établissements différents, dans un pour que quand j'arrive là, je suis à l'aise et productive et fonctionnelle.
Je comprends ton point. Toi, tu parles de l'ergonomie et de l'adaptation à l'endroit. Mais c'est pas rien que ça. Il y a des tâches. Tu sais, par exemple, il y en a qui font jamais de... on dit perfusion, ben, tu sais, il y a différents, il y a énormément de domaines différents en santé. Mm-hmm. Pis tu peux pas devenir une spécialiste à l'urgence, par exemple, à aider les médecins à l'urgence, comme infirmière ou infirmier, puis être une infirmière sur un étage, puis être une infirmière au CLSC, puis être une infirmière, il y a des milliers de variétés. Puis ça prend des formations dans chacune des postes. Fait que... En tout cas, moi, j'ai...
C'est pas évident, mais je te repose la question. Parce qu'on en a parlé, ça fait à peu près 2 semaines, je pense.
Mm-hmm.
Je donne raison à tout le monde. Mais c'est quoi le premier domino qui va tomber pour qu'on replace les affaires?
Qu'on meurt la limite. Non, mais...
Hier, je salue Pascal Sioui, qui est directeur technique au Centre Vidéotron, qui, pendant 2 décennies, travaillait avec le Cercle du Soleil. Il trouvait ça plate en esti de laisser sa famille puis faire des tournées. Mais Chris, ça vient avec la job.
C'est ça.
Si tu veux faire cette job-là, ça vient avec.
C'est ça. Mais là il fait plus.
Là, il fait plus.
Il a pris de l'expérience et il a upgradé dans patente. Fait que là, il est stable à Québec.
C'est
mais
ça.
C'est ça qu'ils veulent, les
ça
filles.
Ça a pris 24 ans.
C'est ça que les filles veulent en santé.
Ben oui.
Mais là, le gouvernement veut amener ça avec un angle différent.
Ça peut pas être sur une base volontaire seulement?
Ben non. Bon, écoute, je le sais pas. Ce que je sais, c'est que 61% des infirmières y ont dit non à l'entente. Puis que la déléguée qui est là pour les représenter est tellement déconnectée de la réalité.
Ça comprend pas pourquoi.
Puis les bureaux sont ici à Québec, là. La FIC, là, vous savez, c'est un syndicat, puis c'est un des plus gros bâtiments de la Bourgneuf. La FIC, ils sont derrière le Blackstone et derrière... Puis je m'en prends pas aux membres du personnel, mais êtes-vous à l'écoute de ce qui se passe là dans votre communauté? Ils viennent de vous dire... que vous autres, vous êtes sortis de là avec le grand sourire, que vous étiez d'accord, 61% vous disent, si tu fais là, ça s'en va à l'encontre de nos affaires. Puis les filles ont pris le temps de voter. Les filles, les gars, là, tout le temps, comprenez, je parle des deux. Là. Fait que, tu sais, moi, je veux juste que ça se règle. Là. Moi, je le règle pas, j'ai pas la solution.
Ouais.
Mais pas certain qu'ils ont pris la bonne traque, puis que la représentante, c'est la bonne personne.
On va avoir des grosses soirées, parce que le lavage, faut faire ça la nuit, puis là, changer nos autos électriques, c'est la nuit, puis là, il faut mourir la nuit aussi.
Ben oui, si tu veux mourir, c'est la nuit.
C'est la nuit, okay.
Mais si, mettons, tu veux vivre, sois malade le jour.
OK.
8 et 5.
Okay.
Entre 8 et 5.
OK.
Okay. Tu sais, c'est un petit quelque chose.
On finit à 10, nous autres, on est chanceux, on a quelques heures pour tomber malade.
C'est ça. Okay. Tu sais, mettons, tu te blesses, tu te casses une jambe.
Oui.
Fais ça le jour, là.
Ah,
pas te casser une jambe le soir en jouant au hockey, là.
Ben non.
La fin de semaine.
Ou la fin de semaine en ski.
Garde tes activités,
8 à 5.
Dangereuses.
On met ça à quelle heure, dans le calendrier?
Se causer une jambe?
Ouais.
Je serais à 8h10, là.
Ouais. À 8h10, parce que tu vas probablement être revenu le soir, okay. Peut-être. Fait que, ouais, 8h10, c'est une belle heure pour se causer une jambe.
OK, parfait.
Es-tu d'accord?
Oui.
OK, ben, le coccyx, c'est à quelle heure qu'on se cause ça, déjà, Karine?
Il mange la hein?
Vous êtes dans Dupont le matin.
93. FM 93, c'est... Bouffe! le matin!
As-tu deux minutes?
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Du bon le matin. As-tu deux minutes?
On a arrêté un homme hier du côté de Sillery à la suite d'une entrée par effraction et c'est le maître chien du SPVQ qui a retrouvé l'homme de 53 ans. Rapidement, comment ça s'est passé? Appel d'un voisin, maison unifamiliale sur la rue Lapointe. Les policiers arrivent sur les rues, sur les lieux, et les propriétaires ne sont pas là, mais constatent qu'il y a des signes d'introduction par effraction. On recherche avec le maître chien et rapidement, on a retrouvé l'homme de 53 ans et on n'écarte pas la possibilité.
Il était où?
Il était pas très loin de là. J'ai pas le détail précis.
Okay, il était pas caché
retrouvé.
Dans la maison.
Non. C'est okay. À proximité de la maison, mais pas très loin. Puis d'ailleurs, on soupçonne qu'il y a des possibilités qu'il ait visité d'autres résidences du secteur.
OK. Caché dans la haie.
Possible. Ciel, mon mari. Ensuite, sauvetage assez spectaculaire, merci, qui est survenu samedi matin du côté de Donnacona. C'est un homme qui a été secouru par hélicoptère. Grosso modo, sur une petite île de la rivière Jacques-Cartier, c'est là qu'il s'est rendu vendredi. Il pouvait traverser, c'était pas un problème avec le niveau d'eau, un homme dans la trentaine. Sauf que le niveau de l'eau a monté rapidement et samedi matin, c'était impossible pour lui de revenir sur l'autre rive. Il aurait contacté lui-même le 911 à 7h30 pour obtenir de l'aide. Les pompiers de Donnacona, sont rendus sur place. Trop de courant, trop d'eau, pas possible de traverser. Alors, on a fait appel à la Sûreté du Québec et leur hélicoptère. Vers 11h, tout le monde était revenu à la normale et le secours était complété. C'était le Salon international du livre de Québec la semaine dernière. Ça s'est terminé hier. On dit que ça a été quand même une affluence intéressante. 74 000 personnes et 1350 auteurs. C'est une question qu'on se posait d'ailleurs parce qu'il y avait le Salon du livre de Paris en même temps et les auteurs qui ont dû faire un choix à un certain moment. La prochaine édition, elle aura lieu l'an prochain, donc du 9 au 13 avril 2025.
Faudrait dire 74 000 spectateurs ou participants au Salon du livre, dont 15 000 obligés.
Ah, les morveux sont allés.
Les morveux sont obligés d'y aller.
Mais c'est excellent.
Les morveux aiment beaucoup revenir à la maison avec un livre qu'ils ont eux-mêmes choisi, même s'ils l'ont payé et ils ne l'ont pas emprunté à la bibliothèque. Il y a une petite fierté.
Mais oui, je sais. Puis c'est assez impressionnant de voir la quantité de livres qui sont vendus.
4 par personne, hein, c'est ça?
Je sais pas.
Ouais, la moyenne, c'est 100 $ à 4 par personne ou à peu près comme
budget. OK.
Parce qu'il reste que...
Mais si je suis Archambault, moi, je prends ça comment, là, qu'ils viennent vendre des livres à ma place? Est-ce qu'il, mais peut-être qu'ils motivent la lecture?
Bon, ouais, c'est ça. Puis des futurs clients, là.
OK.
T'as beau mettre tous les programmes en place que tu veux, là, il n'y a rien pour sauver le français comme des gens qui lisent.
Ouais, je le sais. J'aimerais ça m'y mettre. Si tu savais le nombre
de... Mais toi,
de...
on t'a échappé, mais il faut commencer jeune.
Ouais, mais je pourrais... J'ai décidé que ma vie n'était pas finie.
T'as décidé ça?
Oui.
Okay. Bon.
Ben, ça veut dire que je peux continuer.
T'as pas le temps de mourir la nuit?
J'ai pas le temps de mourir la nuit. Je veux continuer.
Okay.
J'ai sorti, là, si tu viens chez moi, j'ai au moins 4 livres que je laisse traîner. OK? Je suis pas traîneux dans la vie. Là.
Ouais.
J'en ai un, là, sur la table du salon. C'est quoi donc?
Je suis pas allé chez vous.
Non, je le sais.
Je
te l'ai volé, là. C'est les 100 crimes
qui ont marqué le Québec.
Ah ouais, oui. Qui ont marqué le Québec, une affaire de même. C'est ça, c'est le genre de livre.
Christian Page, entre autres, qui est co-auteur.
Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es en plein ça. Ouais. Fait que c'est ça, parce que ça, c'est des faits.
C'est les genres d'affaires qui t'intéressent, ben oui.
Ouais, tu sais, après ça. Tu sais, le dernier que j'ai lu, c'est les 30 plus grandes catastrophes qui étaient arrivées au Québec. Tu sais, il y a des incendies.
Le Seigneur des Anneaux, non, pas trop.
Non, c'est ça. C'est ça. Moi, des romans...
Il y a-tu ton jeudi il y a 2 semaines dans ça, dans les catastrophes?
Non.
Mais ça veut dire, roman, t'as de la difficulté à embarquer. Puis c'est bien correct en
oui,
passant.
Ça
moi,
t'intéresse
pas. Je suis pas de ceux-là non plus.
Je donne toujours l'exemple, mais en même temps, c'est que c'était grâce à mon travail à la radio que j'ai compris comment ce livre-là avait été conçu. Puis le pire, c'est que je vous le recommande. C'est un livre qui date de je sais pas combien d'années. Et je me souviens encore du titre. Il n'y a plus d'Amérique. C'est le titre du livre, de ce roman, qui a été écrit par je me souviens pas qui, mais que j'ai eu en entrevue. Et j'ai lu la moitié de ce livre-là. Puis à la moitié, j'ai arrêté.
Louis Caron,
c'est ça. Ce livre-là, il raconte, tout le début du livre raconte en fait et en geste exactement ce qui s'est produit. Et ça, c'était le meurtre de 2 jeunes Québécois de, j'allais dire, Longueuil, qui étaient allés
sur
à
le
mort,
pont, là?
Sur le pont. Ouais. Ah, oui, vous vous souvenez de cette tragédie?
C'est vraiment un des crimes les plus horribles qu'on a eu au
Québec. Oui, 2 gars complètement défoncés par la drogue qui se cachaient sous le pont Jacques-Cartier ou Champlain, là, je me souviens pas. C'est Jacques-Cartier, me semble.
Ils ont violé elle devant lui.
Oui, oui, puis ils ont tiré en bas vivant. Ils ont tiré en bas du pont vivant. Marcille, lui, je me souviens que ça s'appelait Marcille.
Oui, oui, oui.
Puis elle. Puis d'ailleurs, les deux criminels qui ont fait ça ont été libérés. Là, ça fait plus de 25 ans que c'est arrivé. Là.
Ouais, Chantal Dupont, Maurice Marcille.
C'est en plein ça. Chantal Dupont et Maurice Marcille. Donc deux jeunes, 16-17 ans, je me souviens pas trop.
15 ans pour Chantal Dupont, puis 14 ans pour Maurice Marcille.
Il était plus jeune que je pensais. Hein. Ça, je vous raconte ça de mémoire. Je l'ai lu au complet.
Juillet 79.
Ouais, c'est Jean-Cartier.
C'est Jean-Cartier. Il est allé à la ronde, puis dans ce temps-là, le transport en commun, j'en arrêtais à 11 heures. Fait qu'il était... il voulait rentrer chez eux.
Hey, mais t'as raison, il y a très peu de temps, on a reparlé de Gilles Pimparé.
Ben oui, parce que lui, il avait demandé...
Ouais.
Puis là, la famille de une des... Parce qu'il y a une des familles qui a voulu complètement oublier l'affaire, puis qui sont plus retraçables, puis qui n'avaient pas coopéré non plus avec l'auteur du livre. Mais... et donc, lui, il raconte comment les deux jeunes de 14 et 15 ans ont vécu leur journée à la ronde, puis là, voulant revenir à pied, comment s'est passé le crime comme tel. C'était qui, Pimparé et...
Gilles Pimparé et Normand Guérin.
Normand Guérin.
Ouais.
Donc, qui était complètement défoncé et qui vivait dans une espèce de... Moi, je savais pas ça... sous le pont Jacques-Cartier, à cette époque-là, il y avait comme une roulotte de chantier qui avait été... fixé sous le pont, genre. Vous voyez, genre de salle de repos pour les travailleurs qui travaillaient sur le pont. Fait que eux, ils vivaient là-dedans depuis un petit bout, là, depuis pas longtemps. Et les deux jeunes, donc, ont pris le pont à pied pour retourner à Longueuil chez leurs parents. Puis Pimparé et Guérin les ont vus. Ils ont descendu dans le genre de petite cabane. Ils ont agressé sexuellement les deux. Et ils ont tiré en bas vivants, mais ils ont été retrouvés morts, évidemment. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que ce livre-là est un roman, sauf que la première partie, c'est le récit, là, ensuite de l'enquête, puis comment on retrouve les corps. Puis... Et il arrive un moment donné, au milieu du livre, où là, on va vivre la suite des parents de ces deux jeunes-là. Comment on fait pour survivre?
Et ça, c'est fictif.
Et ça, c'est romancé, parce que les parents ont pas... une famille a embarqué, l'autre moins.
Okay.
De ce que je me souviens. Mais là, je vous le dis. Là. Je vous raconte ça de mémoire. Puis j'avais fait cette entrevue-là, il y a d'avoir 15 ans. Je sais pas, ça fait combien de temps que le livre « Il n'y a plus d'Amérique » a été publié. Je me souviens même pas. Je l'ai encore, mais c'est ça. Donc, ça m'avait marqué. Mais le côté romancé, j'ai bien de la difficulté.
2002.
Hey, je vois le vert. Ça fait un bout, hein?
Tu vois, puis Gilles Pimparé, on en avait reparlé parce que c'était sa 9e demande de libération conditionnelle et il ne l'a toujours pas obtenue. Donc, il pourra faire une autre demande qui sera sa 10e en 2027.
En 2027? Le livre apparaît en 2022.
En 2002. 79,
je sais pas. Hey, ça veut dire qu'il est en prison depuis, mettons, 1980?
Ça veut dire, ça nous montre que le 25 ans n'est pas automatique. T'as le droit de demander après 25 ans, mais t'es pas
libéré. Parce que lui, je pense qu'il y a des troubles sexuels graves. Fait que c'est pour ça qu'il passe pas. Mais.
Ah, puis lui, il avait des antécédents bien avant ça.
Hein? Oui, oui. C'était des criminels notoires, les deux, là. Dans les deux cas. Ils n'ont tué deux. Hey, mais ça fait quand même. Ça fait-tu 40 ans qu'il est en prison pareil?
Ouais.
Ah oui.
Hey, c'est quand même cool. Tu sais, c'est le côté de la justice réconfortant, là. OK. Fait que ça part du salon du livre, toute cette histoire-là.
Tu vois?
Mais c'est plate que ma mémoire soit trop souvent sur des histoires de meurtre.
Pourquoi c'est plate?
Ben, des fois, il y a des affaires de meurtre ou de...
Ta mémoire est sur ce qui t'intéresse, Steph.
C'est sur
les faits divers, l'actualité.
Pose-toi pas de questions.
C'est correct.
Oui, mais c'est souvent des affaires... Tu sais, comme par exemple, en fin de semaine, là. Et puis ça fait plusieurs années, puis je pense qu'on en a parlé vite, ici, l'autre jour, toute l'équipe de volleyball, c'était comme le tournoi de fin de saison, comme un petit tournoi de hockey quand on faisait, mettons, pour les joueurs de hockey, là. Mais là, toute l'équipe de volleyball, on était au Quality Inn sur Amet. OK? L'hôtel voisin du Stanley. Oui. Qui est pas. C'était. Non, c'est une rénovation.
Okay.
C'est une grande rénovation. Il y avait, il y a une époque, un hôtel là, je ne sais pas quelle chaîne c'était, puis il y avait, si je ne me trompe pas, un restaurant, bar, en avant, qui s'appelait le Bonaparte.
OK, oui, ça me dit quelque chose.
OK? Puis, moi, tout, c'est vague. Mais, quand on en a parlé l'autre jour, la jeune fille de 22 ans a été percutée par Yvan Paré. Qui est un automobiliste qui avait obtenu un contrat en paysagement puis qui avait fêté ça au défunt restaurant, le Beefsteak. Puis il était reparti de là chaud tête. On a-tu parlé de ça ici ou c'est rien que... Non, hein? Non. OK. C'est pas ici que j'ai parlé de ça, c'est à l'extérieur. OK, là, ben, je comprends pourquoi vous me regardez comme des chevreuils.
Yvan Paré condamné en 2010 à 5 ans de prison.
C'est ça, puis qui a contesté, d'ailleurs, puis il nous avait juré, parce que moi, lui, je lui ai parlé, et avant sa condamnation, et après, et même, j'avais été le rencontrer en maison de transition avec Vincent Dessureau à Beauport. Je m'en souviens comme c'était hier. Oui. Puis Paré, là, il m'avait donné une longue entrevue de quasiment une heure en me jurant. C'est lui qui avait mis la photo de sa victime sur son frigo pour s'en rappeler tout le temps. Lui, il avait conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. Puis de ce qu'on racontait à l'époque, il était passé devant le restaurant ou la terrasse qu'il y avait là. Puis il y avait du monde qui connaissait, il les envoyait à la main, il a jamais regardé. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de lumière en face de ça directement. Et elle, c'est quoi son nom? Don Pierre, comment elle s'appelait?
Sarah Dominique.
Sarah Dominique, elle a un autre nom de famille.
Blanchette.
Blanchette.
Sarah Dominique Blanchette. Sarah Dominique, prénom, Blanchette, nom de famille.
22 ans, me semble qu'elle avait.
Oui, elle avait 22 ans, puis c'est ça.
Yvan elle chauffait une petite voiture, elle. Puis lui, Paris, il arrivait avec son gros truck. Puis il a renvoyé à la main du monde qui était sur le bord, en tout cas, peu importe où. Puis il regardait pas en avant, puis il était sous-mort, chaud-raide.
5 ans première instance. 3 ans réduit, la peine a été réduite à 3 ans. Puis là, tu nous amènes vers la conclusion de tout ça, là.
Ben, je me souviens pas la conclusion, comment c'était.
Ah, ben, lui, il a demandé à la Cour suprême, finalement. C'est-tu la Cour suprême? En tout cas, ouais, il demandait à la Cour suprême de se pencher sur son verdict de culpabilité.
Puis ça a été rejeté?
Oui, ça a été rejeté.
Et t'as juré quoi dans l'entrevue, Steph?
Que, c'est ça, hey, ça, là, on l'avait diffusé et rediffusé. Dans l'entrevue, il nous jure. Puis là, on est au moment du procès, ou juste avant le procès, que peu importe la sentence qui va lui être octroyée, il va la prendre et il va la faire. Au complet, parce que il était vraiment repentant de ce qu'il avait fait. Mais évidemment, quand t'embarques dans la roue de la justice, puis tu poignes 5 ans, puis que son avocat disait que c'était démesuré par rapport à la jurisprudence de l'époque, fait que... Mais tu sais, moi, quand je passe sur le bout du boulevard Hamel, j'étais pas là, journée-là, là. Puis, tu sais, mes souvenirs, des fois, sont vagues, parce que, vous savez, je prends pas de notes, puis rien. Puis, il était tellement chaud. Mais lui, il s'était pas blessé. Si je me souviens bien, quand la police est arrivée, il avait tué la fille dans le char, là. Il était en train de pisser sur le bord du poteau. Parce qu'il avait envie de pisser. Non, c'était... Bon, puis après ça...
Parce que c'est conduite avec faculté affaiblie causant la mort, mais aussi conduite dangereuse causant la mort. Là, ouais, c'est les deux.
Ah, il était la vitesse. C'est il ça. Avait réussi à démontrer la vitesse qui était ouais. excessive par rapport au boulevard. Après ça, je suis monté, je suis passé Lormière, là, c'est le quartier, souvenez-vous du quartier, ça s'appelait Masson, ça, ce quartier-là à l'époque, ouais, hein? Ouais. C'est magané, hein? C'est pas, tu aurais besoin de travaux, hein? Il y a plusieurs, je trouvais que dans ce secteur-là, puis même à Neuchâtel, là, il y a des maisons abandonnées, tu sais, tout le long de Lormière, il y a encore, il y a de la place à de la construction, là. Puis il y a de la place à de la démolition.
C'est un secteur plus vieillot, là, effectivement.
Ouais. Fait que, mais en montant ce secteur-là, puis il y a une place que, sur Lormière, dans Masson, il y a comme un arrêt d'autobus, là. Il y a un grand U d'autobus.
C'est un parcobus, là, complet. Parcobus, le terminus Les Saules.
C'est ça.
Ouais. Mais... Au début, en bas, là.
Oui, en bas, okay. Là. On est vraiment plus proche du Stanley que... Ouais. Et on est de ce côté ici de la capitale, là, en masse.
T'es près de l'aréna Gaétan-Chain.
Ouais, c'est ça. Puis moi, je me souviens très bien, puis là, encore là, les détails, c'est... Il y a un jeune homme qui avait pris l'autobus, il s'était chicané une gang de jeunes dans l'autobus.
Il avait piqué,
il s'était fait poignarder, puis il était mort. Ouais. Un coup de couteau, mais il l'avait poigné à la bonne place, puis il l'avait tué. Tu sais, en passant là, j'ai vu la... Hey, j'ai dit, c'était ici. Ouais. Ça s'était pas passé là tout à fait, parce que il s'était chicané là dans l'autobus, il était sorti, il était allé dans un parc. Puis, tu sais, des fois, je trouve ça plate d'être...
C'est en 2009 que c'est arrivé.
Tu veux? Bon, fait que c'est toutes mes émissions de tueurs si proches qui fait que je me rappelle.
Jonathan Dulac.
Il n'a-tu, toi, des crimes...
Mais tes souvenirs sont vraiment dossiers mystères.
Ouais, un dossier criminel, là, oui, c'est ça. Oui. Tu sais, mettons que... je me souviens aussi en 2002, les jeux, on les veut, là.
En passant, Jonathan Dulac, c'est celui qui a poignardé Kevin Duquette.
Kevin Duquette qui est décédé.
Ouais.
OK, c'est ça. Bon, on est où, là, dans deux minutes?
De météo.
Ouais.
Sport, météo.
OK, go. Les sports, moi, je trouve que c'est une soirée intéressante dans la Ligue nationale. Mais vas-y avec les résultats,
soir,
mais aussi ce
on
soir.
On va en reparler, si tu veux.
Oui.
Mais je veux juste dire que c'est Scottie Scheffler. Pour les gens qui étaient déconnectés un petit peu hier ou qui n'ont pas regardé de la télé, ben, pour la deuxième fois en trois ans, le champion du tournoi des maîtres, hein, pour nom Scottie Scheffler, c'est le meilleur joueur au monde actuellement. C'est le quatrième plus jeune à avoir deux victoires à son actif après Nicklaus Tiger Woods et Severiano Ballesteros. C'est de l'emporter par quatre coups devant un jeune Suédois du nom de Ludvig Åberg qui a impressionné tout le monde en fin de semaine au tournoi des maîtres. Ça fait même pas un an qu'il est sur la PGA. Puis déjà, il se permet de finir deuxième au tournoi des maîtres. Le 3,6 millions de dollars américains octroyés à Scottie Scheffler, c'est à la suite de birdie quatre fois, quatre birdies sur le dernier neuf, au 10, 13, 14 et 16e trou. Sachez également que c'est la dernière semaine d'activité dans la Ligue nationale. C'est les débuts pour Lane Hudson, jeune espoir défenseur du Canadien ce soir à Détroit. On a beaucoup d'attentes à son endroit. Le Canadien joue un aller-retour contre les Red Wings. Et Steph, tu le disais la semaine dernière, c'est un peu le Canadien qui va décider qu'il va participer aux séries dans l'Est. Mais la semaine dernière, il y a eu des matchs contre Philadelphie, contre les Islanders. Et là, il y en a deux contre Détroit. Détroit est dans une lutte avec les Capitals de Washington. Et Washington reçoit les Bruins ce soir. Et les Capitals vont visiter Philadelphie demain. Donc, la saison se termine jeudi de cette semaine au hockey de la Ligue nationale.
Good. Moi, je vous dirais à la météo tout simplement que nous avons actuellement le soleil qui a envie de se poindre, les nuages qui nous quittent graduellement. Alors, soleil, nuages pour aujourd'hui, 12 au maximum. On aura donc pour demain beaucoup plus frais. Là. Demain au lever, c'est seulement 3 degrés, 7 est le maximum en journée. Alors, ce sera plus frais demain, ça c'est sûr, avec moins de soleil qu'aujourd'hui également. Et on a 6 degrés actuellement au thermomètre.
Au-dessus de 2 minutes.
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Ben, c'est ça.
Ah, excusez-moi, c'est dans le retard et l'organisation de tout ça qui fait que c'est plutôt... OK, on est en train de s'ajuster. OK, notre invité est en studio. Quelques sujets à discuter avec lui, dont l'installation du nouveau système de bornes de stationnement, nouveau système de parcomètre en ville, avec une application, j'allais dire, upgradée, ou qu'il faut en tout cas télécharger la nouvelle, mais on part des bases de l'ancienne pour avoir un upgrade. Donc, pour en savoir davantage, il est le directeur du service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, M. Marc Desrivières. M. Desrivières, bonjour.
Bonjour, M. Dupont.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
C'est bien long, votre titre, ça, service de du transport, mobilité intelligente. Y a-tu déjà eu la mobilité non intelligente?
La mobilité intelligente, ça fait référence à la technologie. Hein? La Ville se distingue parce qu'elle a un système qu'elle a développé elle-même, qui est unique au Québec, au Canada et même en Amérique,
okay,
qui lui permet de gérer les feux en temps réel et pas juste un feu à la fois, mais un bloc de feu. Donc ça, c'est unique. Donc c'est un peu pour ça qu'on a l'étiquette de mobilité intelligente.
OK. Est-ce que, bon, c'est des fois les choses uniques, j'ai peur de ça parce que on veut bien inventer des affaires alors que ça se fait ailleurs, mais est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement de cette intelligence-là au niveau de la gestion des feux de circulation?
On est très, très, très satisfait. Quand on utilise ce système-là sur des axes où on a des enjeux de congestion, généralement, on réduit de 10 à 15% la durée puis l'occurrence des périodes de congestion. Donc, c'est très efficace. Et c'est un système qui fait l'envie de bien des gens partout. Quand on est allé à Los Angeles en 2022, et ces gens-là, on leur a présenté notre système, ils ont dit, wow, on aimerait ça avoir ça.
OK. Est-ce qu'on est capable de leur vendre, vu qu'on l'a créé? Je sais pas la job de la ville de vendre des systèmes informatiques, mais si on a inventé quelque chose, on peut bien aller vendre ça, non?
Non, c'est difficile parce que souvent, les systèmes, ils sont ajustés en fonction de la configuration du réseau routier d'une ville. Los Angeles, hein, c'est comme un gros quadrillé. Alors qu'ici, on a l'enjeu de la haute ville, la basse ville, les autoroutes qui viennent couper les choses, la rivière Saint-Charles. Donc, la dynamique est différente un petit peu.
OK. Donc, je vais vous poser une question parce que je me stine tout le temps avec un de mes bons chums, là, qui travaille dans le domaine. J'y dis toujours, je donne l'exemple de la Floride, par exemple, où les feux de circulation sont du double d'ici. Tu sais, au lieu d'avoir des 20 secondes ou des 30 secondes, ils vont avoir des périodes beaucoup plus longues pour libérer certaines artères. Vous, avez-vous ce genre de discussions-là avec les membres de votre équipe? Et...
Absolument. Un feu de circulation, généralement, là, ça fonctionne sur un cycle de 120 secondes, 2 minutes. Puis ce 120 secondes-là, on doit le répartir entre la rue principale, la rue secondaire, les piétons.
OK. Alors, on leur... Mais on part de quoi pour dire... OK, donc, un quatre chemins, une intersection, on a 2 minutes pour que tout le monde ait eu sa lumière.
Tout le monde va avoir eu sa lumière à l'intérieur du 2 minutes.
Pourquoi ce serait pas 3, par exemple?
Parce que à ce moment-là, les temps d'attente pour certains vont devenir trop importants. Donc, le 2 minutes, on doit le subdiviser en fonction du nombre de véhicules qui arrivent à chacune des approches.
OK.
Alors ça, on a un programme, on a différents programmes selon l'heure de la journée et selon la journée de la semaine. Alors, exemple, on peut avoir un programme pour l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe de l'après-midi, un programme pour la période de la journée entre les deux, le soir, la nuit. On peut avoir un programme pour l'entrée des centres d'achat quand on est dans le secteur Laurier ou Galerie-la-Capitale, sortie des centres d'achat. On a un programme qu'on appelle période des fêtes.
OK.
Alors, on choisit, on
établit... Festival d'été, j'imagine.
Ben, festival d'été, on va le faire en temps réel. On va le gérer en temps réel, okay. Le festival d'été. Alors, le système prévoit, là, on a 9 programmes de base. Et à partir de là, ben, les techniciens, les opérateurs qui sont dans la salle de contrôle, eux, ils ont la possibilité de faire des interventions en temps réel. Donc, ils voient un épisode de congestion. Ici, prenons la côte Saint-Sacrement. Mm-hmm. Ben, sur ça, ils sont capables d'allonger la durée du feu vert en bas de la côte pour s'assurer de vider la côte. Donc, ils font un choix. Ils font attendre un petit peu plus les gens qui sont sur Charest pour vider la côte. Des interventions comme ça, là, à l'échelle de la ville, on en fait entre 19 et 20 000 par année.
OK, je comprends. Puis je le vis aussi, je l'ai remarqué, c'est drôle, la semaine passée, le matin à 6h05, là, quand je m'en viens ici, traverser Charest sur Saint-Sacrement, parce que j'arrête au thème à Mauricio, puis je traverse, on est 2 véhicules, puis on passe bien serré sur une verte. C'est normal, il est 6h05, puis on est rarement plus de 2 ou 3 véhicules. Et quand je repars à 10h, je vois que le même feu, donc pour traverser du nord au sud, Charest, est beaucoup plus long parce que le trafic qui sort du parc est beaucoup plus considérable. Fait que c'est ce genre d'ajustement-là qui est fait au moment de la, à chaque moment de journée différent.
Alors, on choisit au départ le programme qui est spécifique à une période de la journée. Puis le technicien, lui, a la capacité de jouer avec cette programmation-là en temps réel pour allonger une phase verte à une intersection, mais souvent à un groupe d'intersections. Quand on intervient ici en bas, ben on intervient à la fois à l'intersection Charest-Cyril-Duquette, les feux, on va l'appeler Charest-Boiteau-Luminaire, si on veut,
oui.
Mais également le feu de la station-service. Parce que même si je donnais du temps à Charest Saint-Sacrement,
je comprends.
Les gens, ils restent cognés à tête sur aux trois autres intersections. Donc, faut travailler en groupe. Alors, vous donniez l'exemple du festival d'été. Ben, le festival d'été, une fois que les piétons sont partis, ça prend 20-25 minutes, ben là, à ce moment-là, on vide les stationnements. Comment okay. On fait ça? On crée un grand corridor vert qui part de Complexe G, Honoré-Mercier, Côte-d'Abraham, Couronne, jusqu'à l'autoroute Laurentienne. Ça, c'est un grand corridor qui peut durer 2, 3, 4 minutes selon le besoin.
Donc, et ça, c'est fait d'un bureau. Donc là, quand vous voyez que les piétons sont... Parce que, OK, dans l'ordre, là, par exemple, le festival d'été ou d'autres moments, les piétons passent en premier?
Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que dans la programmation, il y a le cycle se divise et il y a un ordre habituellement. Donc,
okay.
On donne le temps à la principale. Après ça, c'est le temps aux piétons. Et après, c'est le temps de la secondaire, puis on reprend le cycle.
Je comprends. Est-ce que les cyclistes, eux aussi, vous les considérez des fois comme ici, il y a un feu de cyclistes au coin, ou il y en a d'autres en ville?
Oui, effectivement. Alors, l'arrivée des corridors cyclables comme CVC nous amène à gérer les feux différemment. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va donner le mouvement tout droit pour les autos. En même temps, on va donner le mouvement pour les vélos. Puis quand on va permettre le virage à droite, ben à ce moment-là, on va arrêter les vélos pour que la manœuvre se fasse en sécurité puis qu'il n'y ait pas de collision.
OK. Êtes-vous... on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je trouve fort sympathique. Est-ce que vous êtes capable d'admettre que des fois, mettons, on a fait une erreur, puis de dire, hey, c'est pas grave, là, mettons, d'interdire le puis ça me concerne pas pantoute, d'interdire le virage à gauche, ici, sur Saint-Sacrement. C'est une erreur, on fait ça. Est-ce que, des fois, vous reconsidérez certaines décisions comme ça?
Ça peut arriver qu'on va reconsidérer certaines choses. Parce que, Vous savez, on travaille avec beaucoup d'outils informatiques, on fait des simulations. Mais la réalité, la personne qui est derrière le volant, c'est un humain. Puis peut-être qu'il va se comporter autrement. Mais quand on va faire des changements comme ça, notre premier objectif, ça va être un objectif de sécurité. Est-ce que le changement que j'ai fait pose un enjeu de sécurité? Est-ce que je dois le corriger? Puis c'est certain que quand on arrive et on implante un corridor cyclable comme sur chemin Sainte-Foy, l'élément fort va être la question de la sécurité, à la fois pour les piétons, les cyclistes et les voitures. Et rappelons-nous que chemin Sainte-Foy, c'était un corridor accidentogène avant l'implantation et que souvent, les mouvements de virage à gauche étaient un des éléments qui était la cause de plusieurs collisions.
C'est pour ça que vous les avez diminués.
On a diminué les virages à gauche dans un souci de sécurité pour l'ensemble des usagers.
Je comprends très bien.
L'impression que j'ai, M. Desrivières, c'est que le système de gestion intelligente des feux de circulation, sur le principe, c'est fantastique, mais il s'agit juste d'un élément, dérangeant. Je dis dérangeant, c'est le mauvais terme, là. Il s'agit que quelqu'un pèse sur une lumière de piéton à quelque part pour défaire tout le système. Est-ce que c'est une fausse impression ou ça peut arriver?
En fait, c'est une fausse impression parce que le positionnement dans le cycle du feu de piéton, il est programmé, on sait à quel moment il vient. Puis on connaît sa durée.
OK.
Quand on est dans un réseau de synchronisation, donc on synchronise ensemble un certain nombre de feux, ben à ce moment-là, la présence ou l'absence de la phase piétonne, elle est prise en considération. Alors souvent, ce qui va arriver, c'est que vous avez une phase piétonne, puis elle est spécifique, elle va revenir systématiquement dans le cycle. À ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu. Si elle peut ne pas intervenir spécifiquement dans le cycle, comment? Parce que l'usager n'a pas pesé sur le bouton. La conséquence de ça, c'est que le 20 à 35 secondes qui est donné au piéton, lui, là, il va être redonné aux gens de la principale ou de la secondaire dans une recette déjà déterminée d'avance.
À ce moment-là, suite à ça, comment vous déterminez une intersection où les piétons doivent avoir un bouton où il y a beaucoup d'intersections. Je trouve en ville, là, c'est systématique. Parce qu'on sait qu'il y a une quantité de piétons considérable que ça vaut pas la peine de mettre un piéton, puis on met le cycle automatique.
Quand on travaille sur le réseau routier, on doit suivre ce qu'on appelle le tome 5. Le tome 5, là, c'est trois ouvrages solides et épais du ministère des Transports qui viennent déterminer comment on doit signaliser, marquer, faire fonctionner le réseau. Alors, il y a un chapitre qui traite spécifiquement des feux de circulation. Oui. Alors, de façon générale, les feux sont sur appel. Cependant, il y a certains endroits, parce qu'il y a tout le temps des piétons, ils deviennent automatiques. Mais là, on est dans une réflexion. Est-ce que à certains endroits, au centre-ville, on pourrait dire, à titre d'exemple, entre 7h et 18h, parce qu'il y a toujours des piétons à l'intersection, ben que ça devienne une opération automatique? Et ça, ce serait plus intéressant pour tout le monde parce que c'est plus prévisible. Ça éviterait, comme moi-même, il m'arrive à l'occasion, je sors du bureau, puis je vois du monde à l'intersection, je me dis, je pèse pas sur le bouton, puis première chose que je sais, qu'on est à 10, puis personne n'a pesé sur le bouton. Donc, on saute un tour. Quand,
ouais.
Quand il fait moins 20, c'est pas drôle, là.
Je comprends, mais OK. Je le sais, mais en même temps, comme piéton, des fois, c'est le seul job que tu as à faire de peser sur le piéton. Là, t'sais. Fait que, OK. De ce côté-là, je pense qu'on a fait le tour. Le pire, c'était pas le but de l'entrevue, les feux de circulation, mais c'est toujours fort intéressant parce que, puis on a aussi un été qui semble s'annoncer être très complexe au niveau de la circulation à cause de la quantité des travaux. Ça, je sais que c'est pas vous, là, les travaux, mais ça va débouler dans votre cours, le fait qu'il y a énormément de travaux dans les rues de Québec. Là.
Effectivement, quand il y a des travaux, il y a un exercice de planification en amont. Donc, chaque chantier, on établit une forme de plan de mobilité de travaux pour s'assurer que automobilistes, piétons, cyclistes puissent se déplacer le plus efficacement possible et surtout en sécurité. Alors, c'est clair que quand on arrive avec des gros projets comme la tête des ponts, c'est un projet important ou ce qu'il va y avoir sur l'autoroute Laurentienne dans le secteur de la rue de la Fonde. Donc, ça, c'est des projets qui vont nous mobiliser beaucoup parce qu'on va devoir intervenir à la base, puis il va falloir faire un suivi quotidien à travers le Centre de gestion de la mobilité intelligente.
Ça va être complexe, et ça s'en vient. Maintenant, je veux qu'on parle des stationnements. Stationnement en ville, stationnement sur tout le territoire de la ville de Québec, et je veux qu'on comprenne bien, bon, il y a eu des changements importants. Vous, donc, comme directeur du service des transports, si vous étiez président de la SAQ, OK, votre mandat serait qu'à la fin de l'année, la SAQ a été plus rentable que l'année d'avant. On s'entend-tu là-dessus?
Clairement.
C'est OK. Est-ce que quand on est le boss des stationnements, on a le même mandat?
Non.
Non? C'est pas le mandat, c'est pas de faire de l'argent?
Mon mandat est pas de faire de l'argent. Mon mandat est de donner un service aux citoyens. Puis pour donner ce service-là, je gère une denrée qui est très rare. Et je dois développer des modes de gestion qui me permettent de rencontrer les besoins qui sont spécifiques à une rue ou à un groupe d'usagers selon le moment de la journée.
OK. Est-ce qu'on vous demande de nous inciter à prendre le transport en commun en diminuant certains espaces de stationnement? Vous avez parlé de denrées rares, puis ça s'en va pas en s'augmentant, ça s'en va en diminuant de fois en fois. C'est des stationnements qui disparaissent tout le temps. Est-ce que, tout le temps en petite quantité, mais il en disparaît quand même pas mal. Est-ce qu'on vous demande d'inciter les gens à prendre le transport en commun plutôt que de se stationner quelque part?
Il n'y a pas de demande spécifique dans ce sens-là. Une ville, hein, ça vit, ça change, ça se métamorphose sur une base quotidienne. Ah oui, il y avait des pratiques en matière de stationnement. Et là, il y a d'autres projets qui viennent aujourd'hui, puis que collectivement, les gens jugent plus intéressants et sont prêts à ce qu'il y ait une diminution de l'offre en stationnement. Alors à ce moment-là, ben, on va de l'avant avec ces nouveaux projets-là. Mais quand on retire des cases, on essaie toujours le plus possible d'avoir, des stratégies d'atténuation pour s'assurer que, oui, même si on enlève 10 places dans un quartier, est-ce que le quartier est capable d'absorber ça? Et si oui, à quelles conditions? Peut-être que ça va nécessiter une révision de la réglementation sur rue. Mais ça, on va s'adapter. Et jusqu'à date, je pense pas qu'on a fait une diminution de l'offre à ce point importante que le citoyen ne trouve plus son compte.
Est-ce que vous avez des collaborations avec les entreprises privées qui offrent du stationnement? Parce que quand du stationnement est enlevé quelque part, souvent les gens vont en avoir quand même besoin. Alors là, ils vont se retourner vers des stationnements privés, Indigo et les autres. Est-ce que vous avez une collaboration avec eux autres pour être sûr que un exagère pas sur l'autre?
On a des collaborations avec la société Parcoto, avec Indigo, puis avec d'autres opérateurs. Mais il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs que la ville peut avoir. Nous, on a d'abord un objectif d'offrir un service. Souvent, ces entreprises-là, l'aspect profit est important. Alors, si on a, nous, disons, sur l'avenue Magoire, un tarif, ben, ça serait effectivement intéressant que le stationnement souterrain ait un tarif semblable. Maintenant, c'est la ville ne le contrôle pas, puis c'est à l'opérateur puis au propriétaire du stationnement.
Le stationnement souterrain coûte cher à construire quand même aussi.
Absolument. Il y a un retour sur investissement qui est important là-dedans. Donc, c'est un peu ça. C'est que quand on établit un tarif, faut prendre en considération la valeur du produit qu'on a. Okay. Puis la valeur, ben c'est ça me coûte combien construire, combien entretenir, combien faire fonctionner.
Comment vous faites la répartition des stationnements dans la mentalité suivante de dire ça on le fait pour que les résidents, comme ici dans un quartier comme Sainte-Foy, que les résidents puissent se stationner même s'ils ont des entrées, ça c'est bizarre, mais et d'autres endroits pour que ce soit de courtes périodes de stationnement pour qu'il y ait une affluence au commerce et à ces rues-là plus intéressantes pour tout le monde. Comment on fait la gestion de ça?
Généralement, on travaille avec les associations de gens d'affaires. Puis on convient, est-ce que on est sur une rue à prédominance restaurant-bar ou à prédominance vente au détail? Puis si on va à la vente au détail, ben qu'est-ce que c'est comme type de commerce? Et sur cette base-là, ben ça va nous amener à déterminer c'est quoi la durée optimale qu'on devrait avoir. Alors, je donne un exemple suivant. Si on a des restaurants.
Troisième avenue.
Si j'offre du 60 minutes, ça c'est pas mal court pour aller manger. Donc, il faut que j'aille vers des périodes qui sont plus longues. Et souvent...
Mais en même temps, vous voulez pas que les résidents se stationnent là.
Non, alors à ce moment-là, c'est qu'on va mettre, disons, stationnement limité à 90 minutes entre 9h et 17h, puis du lundi au vendredi, puis ça va arrêter là. Si je veux privilégier le résident, ben à ce moment-là, je vais rajouter un panonceau dans le bas qui va dire « sauf résident zone 18 ».
Mais là, lui, il faut qu'il s'achète un sticker.
Faut qu'il s'achète un permis, mais... Des zones vignettes résidentes sur les rues commerciales, il n'y en a pas. Parce que sur la rue commerciale, ce qu'on privilégie d'abord et avant tout, c'est le client du commerce.
OK. Là, il y a un nouveau système. Copilote, honnêtement, fonctionnait très bien. On s'entend. J'ai été très surpris, même déçu, quand j'ai appris qu'on changeait le système, parce que pour voyager quand même pas mal, c'était un des systèmes que je trouvais les plus efficaces. Vous décidez d'évoluer. Est-ce que vous êtes convaincu d'évoluer dans la bonne direction?
Ah, absolument, absolument. Le stationnement tarifé sur rue, là, on va dire il y a 4 générations. La première génération, c'était les parcomètres.
Avec les 25 cents.
Avec les 25 cents.
OK.
La deuxième génération, c'était des bornes, mais vous payiez puis vous preniez votre coupon, vous alliez le mettre sur votre tableau de bord.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on appelait ça.
Le tableau, on ouvrait la porte en même temps, puis le coupon partait au vert.
Et voilà. Dans la rue, alors ça, on appelait ça afficher et parter.
OK.
Il y a eu la troisième génération, qui était le système qu'on avait jusque dernièrement, qui était un système où on fonctionnait par numéro numéro de case, merci. Et à partir de là, ben, l'usager n'avait pas à mettre son petit papier dedans. Il y a maintenant une quatrième génération. C'est la génération qui fonctionne sur la base des plaques d'immatriculation. Et ça, c'est ce qui est en train de se déployer partout. Je disais encore en fin de semaine que New York a adopté ce système-là, est en train de déployer un système comme ça. Et ça, ça offre beaucoup plus d'avantages qu'un système qui fonctionnait par numéro.
Avantages pour le citoyen ou pour la ville?
Toujours pour le citoyen. Notre objectif, là, notre système, il y avait 11 ans, 4 mois. Il était arrivé à la fin de sa vie utile. Okay. Si on veut faire une comparaison, là, c'est comme si on avait eu un système qui fonctionnait sur Windows 8 avec une application pilote qui était sur un iPhone 5.
OK.
Alors, ça a évolué beaucoup, beaucoup en 11 ans. Et sur cette base-là, on avait des enjeux de fonctionnalité, de désuétude, de panne, qui faisaient qu'on pouvait plus garder ces systèmes-là.
Okay.
Donc, on a entrepris la démarche pour les moderniser. Et on a un système qui est très, très, très avantageux pour l'usager parce que c'est l'objectif de base. Qu'est-ce qu'on pouvait donner de plus à l'usager avec un système comme ça? Alors, si on compare borne ancien modèle, borne nouveau modèle, avec le paiement par numéro, vous faisiez votre transaction et si vous vouliez ajouter du temps, c'était pas possible. Si vous vouliez vous déplacer une fois payé, c'était pas possible. Avec la nouvelle application, avec la nouvelle borne, ben, vous entrez votre numéro d'immatriculation, vous mettez votre temps, puis vous avez payé, disons, là, de 9h à 11h. Puis là, 10h30, je dis, j'aurais pas fini. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter du temps sans écraser le temps qui me restait et je peux continuer à vaquer mes occupations. Même exemple, j'ai payé jusqu'à 11h. À 10h, j'ai terminé mes courses, sur la rue Cartier. Ben, l'heure qui reste, je peux partir et aller me stationner sur la rue Saint-Jean ou aller me stationner sur la Grande Allée.
Puis je peux l'arrêter pendant le déplacement.
Vous pouvez pas l'arrêter avec la borne. Par contre, si vous avez payé par l'application mobile, oui, là, c'est possible.
OK. C'est ça. La plupart des gens vont faire ça, j'imagine. Ouais. Parce que le téléchargement de la nouvelle application doit aller bon train. Ça, vous avez des statistiques?
Oui, on a des statistiques. Là, vendredi, sur l'heure du midi, on avait 3800 téléchargements qui avaient été faits déjà.
Il y en avait combien sur l'autre?
L'autre, il faut faire attention. On avait, au fil des ans, 150 000 comptes actifs. Donc ça veut dire que quelqu'un qui faisait une transaction une fois au cours d'une période de 2 ans. Alors là, on présume que au moment où on va remettre tout ça en fonction à la fin avril, on aura probablement autour de 8 à 10 000 téléchargements. Mais là, quand vous allez vous présenter la prochaine fois devant une borne, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être là que vous allez choisir de télécharger l'application. Puis c'est très, très simple. Ça prend 1 minute et demie à faire.
C'est ça. Et se créer un compte pour payer tout ça.
Se créer un compte. Et ce qui est intéressant quand on utilise l'application, c'est que vous avez pu entrer votre numéro d'espace parce qu'il n'y en a pas, par défaut, le numéro d'immatriculation du véhicule est déjà là. Vous n'avez qu'à choisir du temps. Alors, je choisis 2 heures. Je reviens à mon exemple. Au bout d'une heure, j'ai terminé. Je peux arrêter ma session. L'argent restant est déposé dans mon portefeuille. Puis lors d'une prochaine transaction, je pourrai récupérer ce temps-là.
Je vous pose une colle d'un auditeur. L'argent que vous avez mis, est-ce qu'il est lié à ce véhicule-là ou vous pouvez le déplacer d'un véhicule à l'autre?
Non, il est cet argent-là. Dans votre compte, vous pouvez enregistrer plus qu'un véhicule.
Fait que alors, c'est ça, comme moi dans mon compte, maintenant je vais mettre mon numéro de plaque à moi,
oui.
Puis le numéro de plaque à Marie.
Oui, mais fait si tu achètes de l'argent pour une plaque,
ça va marcher pour les deux plaques. Ça va être dans votre compte.
Okay. C'est le compte qui est relié à l'argent et non pas le numéro de plaque.
Alors, vous définissez un véhicule par défaut. Maintenant, si au moment de faire une autre transaction, vous n'avez pas le véhicule par défaut, vous avez le véhicule de madame, ben à ce moment-là, vous allez devoir changer votre numéro d'immatriculation pour être certain que c'est le bon véhicule. Mais le temps appartient toujours au compte.
C'est ça. Ça, il va falloir... Les gens qui vont rentrer plus d'un numéro d'immatriculation, ils vont devoir...